Suivez Priorité Santé avec les sociétés Sunois Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Sunois Assurance. Sunois Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. L'expression orale a sa musicalité, son rythme, mais chez certains, très tôt dans la vie, cette fluidité ne va pas de soi. Certaines syllabes se répètent, d'autres s'étirent. La phrase s'interrompt trop tôt, les mots se bloquent et ce bégaiement, puisque c'est bien de cela dont il s'agit, peut compliquer la communication et au-delà, troubler la vie quotidienne de l'enfant ou de la personne directement concernée. Perturber aussi l'entourage qui s'inquiète, s'interroge et en voulant soulager, corrige ou anticipe et parle à la place du sujet. Si ce problème peut s'arrêter avec les années pour certaines personnes, eh bien le bégaiement peut aussi s'installer durablement et conduire à des situations de malaise, voire d'isolement ou de détresse psychologique. Aujourd'hui, dans Priorité Santé, nous allons donner la parole à des orthophonistes et professionnels de santé spécialisés notamment dans la rééducation des troubles du langage et de la communication. Et nous vous donnerons également la parole à vous, directement concernés, adultes en attente de conseils pour sortir du bégaiement, personnes ayant résolu le problème ou parents d'enfants qui présentent ce trouble, prise en charge précoce, implication de l'entourage, vos témoignages, vos questions sur le bégaiement, c'est aujourd'hui dans Priorité Santé. Deux praticiens qui prennent donc en charge ce trouble de la communication en ligne avec nous. Patricia Oxenberg, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes orthophoniste, enseignante à Sorbonne Université. Et tout à l'heure, on va retrouver Aguibou Madani-Tal, qui sera en ligne avec nous du Mali, lui aussi orthophoniste. Il exerce en libéral et fait partie de l'association Vaincre le bégaiement à Bamako.
Priorité Santé sur RFI.
Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, Patricia Oxenberg, cette émission va essentiellement s'articuler autour des questions des auditeurs de Priorité Santé. Et pour entrer dans le vif du sujet, on va peut-être expliquer pourquoi le bégaiement est un trouble de la communication et non pas un trouble du langage. Expliquer la différence entre les deux.
Oui, bonjour. Alors, le bégaiement, on pourrait même dire que c'est un trouble qui va troubler la communication. Mmh. Ce n'est pas un trouble du langage parce que les personnes qui bégaient peuvent avoir un très bon niveau de langage. Même les enfants qui viennent en bilan, même tout petits, peuvent avoir un niveau de vocabulaire, un niveau phonologique, c'est-à-dire au niveau des sons, et même un niveau syntaxique excellent, mais il y a des blocages dans la parole.
Et ce qui vous explique aussi qu'on peut bégayer dans certaines situations et pas dans d'autres.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les situations qui vont faire le plus bégayer, ce sont les situations de conversation où on ne va pas pouvoir maîtriser ce que l'autre va nous répondre. Ça, ce sont les situations qui font le plus bégayer et qui sont les plus compliquées aussi à travailler.
Alors, on parle de trouble de l'affluence, l'affluence en deux mots. Comment est-ce qu'on peut la définir, Patricia Oxenberg?
Alors, on peut dire que le bégaiement, c'est un trouble du rythme de la parole. Mmh. C'est-à-dire qu'au moment où la personne parle, elle va avoir des petits spasmes au niveau du larynx qui va évidemment troubler le rythme de la parole. Et c'est très compliqué après pour reprendre son flux de parole à cause de ces petits spasmes.
Alors, autre question de base, pourquoi est-ce que certains bégaiements chez l'enfant disparaissent avec les années, sans rééducation, on va dire, quasi spontanément?
Alors, on ne le sait pas. Mmh. Il y a à peu près 75% des enfants qui ont présenté un bégaiement très précocement, qui vont avoir une parole fluide de façon spontanée, une restauration spontanée. On sait que le bégaiement, c'est un trouble qui est neurologique, qui se passe, c'est une petite zone du cerveau, et probablement qu'il y a des enfants qui vont avoir une restauration de cette zone sans rien faire. Sans intervention, en tout cas d'orthophoniste.
Jusque-là, on a parlé des enfants. Est-ce que le bégaiement peut apparaître, Patricia Oxenberg, chez l'adulte sans aucun précédent, on va dire jamais aucun problème au cours de l'enfance de ces jeunes années?
Non, c'est extrêmement rare. En fait, on a ce fantasme-là du bégaiement qui apparaît après un traumatisme, mais en réalité, il faut avoir des prédispositions pour bégayer.
Alors, question très concrète là aussi, hein. Question Facebook d'André, il demande pourquoi il y a une grande proportion de personnes de sexe masculin, de garçons, parmi les personnes qui bégaient.
Ben là encore, on ne sait pas trop, c'est-à-dire que les petits-enfants qui commencent à bégayer vers l'âge de 3-4 ans, il y a autant de filles que de garçons, mais en fait, on sait qu'il y a plus de restauration spontanée chez les petites filles que chez les garçons. Et donc, à l'âge adulte, il y a 3 garçons, 3 hommes pour une femme.
Et on essaye justement de savoir plus, il y a des recherches particulières sur cette causalité, sur la question du genre, sur les origines, on travaille là-dessus ?
Il y a eu un peu de recherche là-dessus et on a l'impression que c'est peut-être parce que les femmes n'utilisent pas de la même façon leur cerveau au moment de la parole et vont faire plus facilement des ponts avec entre cerveau droit et cerveau gauche. Et c'est ce qui est fait justement après rééducation. Mais on ne sait pas trop en fait. Et c'est vrai qu'on sait tous comme ça instinctivement que les petites filles parlent plus vite que les petits garçons. On sait bien que la parole ne se met pas tout à fait en place de la même façon chez une femme et chez un homme. Et donc, on pense que c'est ça, mais la recherche ne va pas tellement sur ce sujet en ce moment.
Alors, question du genre également, pas mal de questions des auditeurs sur l'hérédité. Souvent, on parle des autres membres de la famille qui sont concernés. Illustration avec l'interrogation d'une internaute auditrice. Vanessa, elle demande, je vous lis sa question, « Je me suis toujours posé la question de savoir ce qui peut être la cause du bégaiement. Est-ce que c'est héréditaire ?» Et Vanessa justement explique avec un cas concret, « Mon frère aîné bégait et j'ai toujours cherché à comprendre pourquoi lui, oui, et pas nous, ni ses frères et sœurs, ni nos parents. »
Oui, alors ça c'est très intriguant et très étrange. Alors on sait que le bégaiement a des facteurs génétiques, on sait que ça se transmet, mais pas toujours. Et ce qui est d'ailleurs le plus étonnant, c'est un cas qui est rapporté par Martin Sommer, qui est un chercheur allemand, où il décrit deux jumeaux homozygotes, l'un qui bégait et pas l'autre. Donc c'est très étonnant, mais on sait quand même que c'est génétique et qu'il y a une prédisposition familiale à bégayer.
Alors là, on parle de ce problème de langage, hein, mais ce qu'on va aussi comprendre au cours de cette émission, Patricia Oxenberg, avec les auditeurs dans quelques instants en direct, c'est que les conséquences de ce trouble de la communication, ça peut être vraiment très profond, ça peut gravement perturber la qualité de vie, et c'est ce qu'il vous arrive bien sûr de voir en consultation.
Oui, exactement. Et même, je dirais que il faut commencer par ça, par travailler sur la qualité de vie. Alors, quand on a des tout petits, c'est pas encore impacté. Mais par contre, quand on reçoit des adultes, ils ont déjà un vécu de personnes bègues. Et là, vraiment, leur qualité de vie est très impactée. Et si on travaille pas là-dessus, ça ne sert à rien, en fait, de rétablir une parole fluente chez quelqu'un qui ne va pas oser prendre la parole, qui ne va pas oser aller faire ses courses, etc.
Et ce ressenti, cette douleur face à cette difficulté à communiquer, ça s'exprime comment chez vous en consultation d'orthophonie, par quels mots, par quelles plaintes ?
Les personnes sont dans l'évitement, en fait. Et donc, dans des situations de parole anodines, vont se mettre à essayer d'éviter de parler. D'ailleurs, j'ai eu le cas, là, avec le confinement, où il y a eu pas mal d'adultes que je suivais, qui ont eu la tentation de ne pas parler du tout pendant le confinement, de juste s'exprimer par message écrit, en fait. Voilà, donc c'est ça qui va commencer.
C'est mettre sa parole entre parenthèses, ça veut dire que bien sûr, quand on imagine ce que fait un ou une orthophoniste, on imagine des exercices d'expression, mais bien sûr, cela ne se limite pas à ça.
Non, c'est-à-dire que maintenant, de plus en plus, on va essayer de donner des exercices à faire à l'extérieur du cabinet, pour que la personne qui bégaye puisse s'entraîner en situation et pas uniquement un entraînement seul chez lui en répétant des mots ou des phrases, parce que ça a une limite en fait, puisque le bégaiement va n'intervenir que dans l'échange. Donc il est très important aussi de s'entraîner à l'extérieur du cabinet pour petit à petit se désensibiliser de l'idée que quand on parle, on risque de bégayer, on risque d'être moqué. Voilà, et d'être jugé par rapport à son bégaiement.
Et puis, il faut bien avoir aussi en tête qu'en France, on a accès à l'orthophonie, ce n'est pas le cas partout dans le monde, notamment pour une grande partie des auditeurs de Priorité Santé en Afrique subsaharienne. Et on va justement donner tout de suite la parole à nos auditrices et à nos auditeurs.
Priorité santé sur RFI.
Et pour commencer, on part au Bénin, Porto Novo précisément, où l'on retrouve Abdelhamane. Bonjour.
Oui, allô, bonjour madame.
Abdelhamane, ravi de vous parler. Alors racontez-nous, Patricia Oxenberg est à votre écoute, allez-y.
Ok, bonjour madame, bonjour à tous les auditeurs, les auditrices de RFI et de Priorité Santé en particulier. En fait, j'ai une petite fille qui a actuellement 3 ans, 3 mois. Et il faut dire qu'elle a commencé par parler à l'âge de 2 ans, 2 mois comme ça.
Mmh.
Et déjà, après 2 mois, on a constaté qu'elle a commencé par bégayer, très grave même. Vous voyez?
Mmh.
Et en ce moment, moi-même qui suis son papa, j'étais un peu très inquiet. Et puis sa maman aussi, c'est comme si c'est de la honte, puisque c'est une fille. Vous voyez?
Pourquoi vous avez davantage honte parce que c'est une fille? Expliquez-moi, Abdelhamane.
Ok. En fait, je vois qu'elle a du mal à s'exprimer.
Mmh.
Et quand elle est devant les gens, malgré qu'elle soit une petite fille, elle a parfois honte pour pouvoir s'exprimer véritablement.
Mais la honte, donc, c'est chez votre petite fille, c'est pas chez vous, on a bien compris.
Même chez moi aussi.
Chez vous aussi.
Oui, parce que je me dis que si elle grandit avec cela, ce ne serait pas trop bien pour...
Est-ce que c'est de la honte, Abdelhamane, ou est-ce que c'est de la peine?
Je peux dire que c'est de la peine.
C'est de la peine. Faut faire. Oui.
Oui.
C'est peut-être pas la même chose. Patricia Oxenberg, on peut bien comprendre un papa qui est embêté, qui ne sait pas quoi faire, qui est démuni quand il voit son petit enfant qui a du mal à s'exprimer.
Oui, bien sûr. Bonjour monsieur. En fait, je pense que c'est. Je pense que vous ressentez vraiment de la honte parce que vous ressentez ce que votre enfant ressent aussi.
Mmh.
Il y a de la peine, mais il y a aussi de la honte.
Mmh.
Et c'est bien parce que ça veut dire que vous et votre femme et la maman, vous êtes en symbiose avec votre enfant et vous arrivez à identifier ce qu'elle ressent. Et cette petite fille, elle a parlé tôt, c'est ça que vous disiez?
Elle a parlé
à l'âge de 2 ans.
Oui, il y a 2 ans.
Oui.
Donc c'est pour ça que son bégaiement, il s'est mis en place rapidement aussi. Ce qui se passe chez les enfants qui parlent très tôt, c'est que ils ont envie de parler très vite puisqu'ils maîtrisent bien le langage. Or, en fait, les organes phonateurs sont trop petits pour que l'enfant parle vite. Donc il va falloir l'aider à ralentir un petit peu. Mais pas évidemment en lui disant de ralentir parce que c'est impossible, elle peut pas le faire. Mais peut-être vous, quand vous entendez qu'elle se met à bégayer, d'abord il faut lui dire « regarde-moi » si jamais vous apercevez qu'elle ne vous regarde plus lorsqu'elle bégaye. Et puis aussi vous-même, pendant les phrases qui vont suivre, essayez de ralentir un peu votre débit de parole pour qu'elle vous imite en fait.
Aller sur un débit plus lent pour reprendre ses marques en quelque sorte.
Voilà.
Oui, bon, ça. En fait, moi-même, j'ai fait quelques recherches, vous voyez, parce que j'ai essayé de voir est-ce qu'on peut trouver
des méthodes?
Des spécialistes, vous voyez, non.
Mm-hmm.
Mais on n'a pas trouvé grand-chose. Là, du coup, je me suis rendu sur des sites d'information.
Mm-hmm.
Vous voyez, et puis j'ai eu quelques conseils qui m'ont vraiment aidé. Vous voyez, donc.
Est-ce que vous avez vu des améliorations quand vous avez suivi ces conseils?
Oui, tout à fait. Tout à fait. Beaucoup d'améliorations même.
Est-ce que vous avez remarqué ce dont Patricia Oxenberg parlait, c'est-à-dire le regard de votre petite fille quand vous lui parlez? Est-ce que vous voyez qu'elle baisse les yeux, regarde ailleurs, ou elle vous regarde encore dans les yeux quand elle parle?
Entre-temps, elle ne me regardait pas.
Mm-hmm.
Parce que ses frères et sœurs, souvent, quand elle a envie de parler, commencent par la gronder.
Mm-hmm.
Pas crier sur elle. Mm-hmm. Et puis, elle a peur.
Mm-hmm.
Vous voyez? De là, moi, j'ai compris. Bon, je me suis dit que si c'est ça, moi-même, je vais essayer de discuter plus longuement avec elle, tout en lui mettant en confiance.
Mmh. Et vous avez aussi parlé avec ses frères et sœurs pour leur expliquer qu'il ne fallait pas faire ça?
Oui, qu'il ne fallait pas faire ça. Et puis, en voulant aussi parler avec elle, d'aller vraiment très posément pour qu'elle puisse comprendre et puis cerner ce qu'ils sont en train de dire avec elle, pour qu'elle puisse répondre véritablement.
Patricia Oxenberg voulait ajouter quelque chose pour Abdelhaman ?
Oui, ça va être très important, effectivement, de parler aux grands frères et sœurs et de leur dire qu'elle ne le fait pas exprès, parce que souvent, les grands frères et sœurs, ils pensent que soit l'enfant le fait exprès, puis peut-être aussi ça les angoisse un peu de l'entendre bégayer. Donc, il faut leur expliquer que ça va passer et qu'il faut qu'ils soient patients, mais surtout qu'il ne faut pas qu'ils se moquent d'elle, parce que sinon, pour elle, c'est vraiment une expérience affreuse, quoi, d'avoir ses frères et sœurs qui se moquent d'elle.
Voilà Abdelhaman, on vous remercie beaucoup pour votre appel et bon courage avec votre petite fille pour que les choses s'améliorent. Il y a une question sur une question Facebook de Fortune qui écoute RFI en RDC au Kasaï Oriental et qui demande pourquoi dit-on souvent aux enfants de chanter quand ils bégayent et comment expliquer que certaines personnes bégayent uniquement quand elles sont en colère. Patricia Oxenberg, deux choses, d'abord le chant et le bégaiement.
Alors, en fait, quand on chante, on ne bégaye pas, puisque le chant, ce n'est pas, c'est pas un échange, en fait. Si on chante une chanson, l'autre ne nous répond pas. Mmh. Et alors, de mettre, en fait, du chant dans sa parole parlée, c'est aussi remettre un rythme dans la parole. Et donc, effectivement, quand on chante, on ne bégaye pas. Bon, le problème, c'est que si on s'exprime toujours en chantonnant...
La vie n'est pas une comédie aussi, musicale, non?
Voilà, c'est ça, on peut pas, quoi. Voilà, donc c'est une méthode qui a ses limites, disons.
Et sur la colère, sur les sentiments, les émotions et le bégaiement.
Alors, bien sûr, les émotions, chez certains, hein, pas chez tout le monde, mais vont majorer le bégaiement, parce que les émotions, tout simplement, vont augmenter le débit de parole, les gens se mettent à parler plus vite, vont aussi augmenter le niveau de tension de tous les muscles faciaux, et donc ça va majorer le bégaiement. Mais pas chez tout le monde, il y a des personnes qui, quand elles sont en colère, elles oublient, en fait, elles sont plus du tout en double tâche à penser à leur bégaiement, et donc, du coup, elles peuvent parler de façon fluide.
Alors, message Facebook auditeur, et puis des messages enregistrés sur notre répondeur, comme celui de Moussa, qui nous écoute en Côte d'Ivoire.
Bonjour, Priorité Santé. Bonjour, Madame Caroline, et bonjour à tous. Je m'appelle Moussa, et j'ai un handicap. J'ai bégayé. Ma grande sœur parle un peu plus rapidement, mais ne bégaye pas. Mon petit frère, celui qui me suit bégaye aussi. Et le fils de ma grande sœur qui a 8 ans bégaye. Moi, au fait, lorsque je parle avec une personne et que je n'ai pas de pression, j'arrive à maîtriser mon bégaiement. Mais lorsque j'écoute avec une personne avec laquelle je me sens très à l'aise, je n'arrive pas trop à maîtriser mon bégaiement. J'aimerais savoir, lorsque j'avais 8 ans, j'ai été électrocuté par un fil électrique. J'aimerais savoir si c'est ça qui est à la base de mon bégaiement. Et quelles sont les solutions à faire pour diminuer son bégaiement? Merci.
Alors, on remercie déjà beaucoup Moussa parce qu'il fallait pas mal de courage pour enregistrer ce message. Hein. Patricia Oxenberg, Moussa qui voudrait améliorer la situation. On entend dans sa façon de s'exprimer qu'il a ralenti le débit pour qu'on comprenne bien ce qu'il a à nous dire. C'est peut-être une première chose.
Oui, et puis, c'est pas mal ce qu'il fait.
Il a déjà appliqué une propre méthode.
Oui, c'est bien, c'est ralenti, mais pas de façon bizarre quand même. Mm-mm. Moi, je trouve que vraiment.
Et je l'indique, on n'a pas monté, hein, justement, parce que souvent on monte pour essayer d'éviter que les gens se répètent ou quand ils disent des bêtises, etc. Là, c'est brut, justement, parce que c'est le sujet de l'émission qu'il veut. Donc, c'est sa façon de s'exprimer, c'est important de le dire, et c'était parfaitement compréhensible et très agréable à écouter.
C'est vrai, j'espère qu'il va bien réécouter plusieurs fois en fait ce passage en replay, parce que ça aussi c'est une façon de s'aider et de se rééduquer. Ça s'appelle le self-modeling, en fait, c'est le modelage par soi-même.
Parce qu'il y a la confiance, en fait, hein, c'est important la confiance.
Oui, et aussi juste que le cerveau s'habitue à cette façon de parler, parce que s'il arrive à garder cette façon de parler pour l'auditeur, il faut vraiment qu'il prenne conscience que l'auditeur n'entend pas vraiment de bégaiement. Et c'est une parole qui est agréable, qui n'est pas trop lente, c'est agréable à écouter.
Et c'est vrai donc qu'on peut se dire, il se présente en disant « je bégaye », finalement, on a entendu assez peu de bégaiement, on a entendu un ralentissement du débit, une grande articulation, mais un message limpide.
Voilà, tout à fait. Et en fait, le fait aussi de dire qu'il bégaye, c'est quelque chose qui va faire diminuer le bégaiement parce qu'il prévient en fait. Et donc, il est plus dans un acte de cacher tous ces petits défauts de parole. Mais c'était bien, vraiment, cette parole, elle était jolie.
Et puis, il y avait ce souvenir, hein, il cherche à expliquer le bégaiement, il parle d'une électrocution. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, c'est certainement pas dû à ça. Il décrit vraiment un contexte où les garçons de la famille bégaient. Mmh. Donc, on voit bien là le caractère génétique du bégaiement et héréditaire. Bien sûr, peut-être que cet événement d'électrocution qui a dû être très traumatique a peut-être fait flamber un peu le bégaiement, et peut-être qu'avant il arrivait à mieux le maîtriser et qu'à partir de ce moment-là il a moins bien maîtrisé, mais c'est pas dû à ça, c'est parce qu'il avait déjà cette prédisposition.
Alors on va partir pour la Guinée si vous le voulez bien, Conakry, où nous retrouvons en direct Alousseni. Alousseni, bonjour.
Bonjour madame.
On vous écoute, allez-y, Patricia Oxenberg vous écoute.
Ok, bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs de RFI. Aussi longtemps que je me souviens, j'ai toujours bégayé. Et ce trouble de la communication affecte beaucoup mes études. Et c'est très fréquent dans ma famille. Mon grand-père était un grand bégayeur et j'ai des cousins et des sœurs qui le sont aussi. Cela m'amène à penser que c'est héréditaire dans ma famille. Mais bon, à part ça, j'ai le soutien de ma famille, mes amis, sont compréhensibles. Mais à l'instar de ces derniers, quand je bégue, et surtout en public, je sens les regards sur moi, des moqueries, des gestes allant dans ce sens. Mais bizarrement, quand je sens, ou quand je fais la lecture, ou quand je suis seul, dans mon coin détendu, en train de parler comme je suis en train de le faire, je bégue moins. Mais j'ai l'impression que ça empire au fil des âges. Et ça me stresse énormément.
Et vous avez conscience excusez-moi de vous interrompre, Alousseni, vous avez conscience que là, quand vous venez de nous parler, ça a été absolument fluide, limpide. C'est toujours comme ça quand vous êtes au téléphone ?
Voilà, exactement. Quand je suis dans mon coin, détendu, je bégue moins. C'est ce
D'accord.
que j'essaie de vous expliquer.
D'accord, tout à fait.
Et j'ai du mal à communiquer les messages que je veux passer. Par exemple, quand je suis en cours, lors de mes exposés, ou quand je dispense des cours à mes frères et sœurs, j'ai du mal à leur faire comprendre, même si je maîtrise bien la partie. Et moi qui aspire à devenir entrepreneur, je serai forcément amené à tenir des discours, défendre des projets. Bon, bref, c'est un vrai handicap pour moi. Et j'ai deux questions à vous poser.
Allez-y, allez-y.
Est-ce que ça se soigne? Et si oui, par quel moyen?
C'est toute la question, Patricia Oxenberg, ce que nous pose comme question à Alousseni. Qu'est-ce qui peut permettre d'améliorer la situation? Enfin, on entend que les projets sont là, que tout est là pour que ça marche, et puis il faut juste aider Alousseni.
Oui. Donc, bonjour Alousseni. Ce que j'ai entendu, c'est que vous êtes ce qu'on appelle dans un self-stigma, mais toutes les personnes qui bégayent ont ça, c'est-à-dire que vous avez vraiment l'impression vous-même d'être stigmatisé à cause de votre bégaiement, et qu'à cause de votre bégaiement, en fait, les gens vont vous juger d'une façon défavorable. Est-ce que vous êtes sûr que les gens vous jugent toujours d'une façon défavorable à cause de votre bégaiement, ou bien est-ce que c'est l'idée que vous avez?
Bon, c'est les deux à la fois. Des fois, les gens me disent aussi, c'est cette impression que j'ai.
D'accord. En fait, ce qui serait important, c'est que vous puissiez, quand vous commencez un peu à bégayer avec des personnes, dire, excusez-moi, je bégaye un peu, ou bien juste dire, il m'arrive de bégayer. En fait, quand vous allez...
Quand ce sont des poules hein, qu'on entend derrière, mais c'est pas grave, c'est la vie qui continue, c'est toujours comme ça dans oui, Priorité Santé.
C'est bien. Oui, c'est bien. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est à partir du moment où vous allez commencer à dire « je bégaye un peu » ou « je bug un peu », enfin, à votre façon, vous le dites comme vous voulez, vous allez voir que oui, les interlocuteurs vont vous regarder moins bizarrement parce qu'en fait, ils vont comprendre ce qui se passe. Parce que quand on vous écoute, on n'entend pas vraiment du bégaiement. Donc, on ne sait pas trop ce qui se passe parce que votre bégaiement, il est assez léger. Et en fait, les personnes, si vous dites ça, dites par exemple, vous dites « je bug un peu », déjà, ça va détendre l'atmosphère. Ça, c'est une première chose. Après, ce que je vous conseillerais de faire, est-ce que vous avez un smartphone ?
Oui, oui.
Oui, donc vous verrez que sur votre smartphone, il y a un dictaphone. Donc, vous pouvez chaque jour vous entraîner un petit peu, soit en lecture, mais il faut pas que ça dure très longtemps, hein. Il faut que ce soit entre 5 et 10 minutes. Vous pouvez vous enregistrer en lecture, vous enregistrer en monologue, en parlant de n'importe quoi, de quelque chose. Et après, vous réécoutez et examinez votre parole, comment elle est. Et vous faites ça un peu chaque jour. Ça, c'est de l'entraînement. C'est comme si vous faisiez un sport et que vous vous entraîniez. Et ensuite, évidemment, il va falloir vous entraîner à l'extérieur en essayant d'aller chaque jour, de vous donner une mission particulière. Par exemple, un jour, d'aller parler à quelqu'un que vous connaissez et vous avez à chaque fois un petit peu peur de bégayer avec cette personne. Alors, vous allez essayer de ralentir, voilà. Et vous donner des missions un peu chaque jour comme ça. Et en faisant à la fois de l'entraînement tout seul et après en situation, c'est ça qui va vous permettre de mieux connaître votre parole et c'est ça qui va vous aider en fait.
Patricia Oxenberg, j'ai tout écouté, j'ai noté, donc déjà le dire, reconnaître qu'on a un problème de bégaiement quand on sent que ça vient pour essayer de simplifier la relation avec les autres, s'enregistrer et s'entraîner dans la vraie vie. Voilà.
Voilà, exactement.
Les trois principes. Aloucenou vous souhaite bon courage. Et puis, n'hésitez pas à nous remettre des messages sur la page Facebook de Priorité Santé pour dire si ces solutions, si ces conseils vous ont facilité la vie, notamment dans vos études. On va rester à Conakry pour rejoindre tout de suite une auditrice. C'est Fatoumata. Fatoumata, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute. Racontez-nous, Fatoumata.
Ok, moi mon histoire, je l'ai constatée depuis l'enfance. On m'aurait dit que je l'ai appris avec l'une de mes camarades dont je jouais lorsque j'étais un peu enfant. Donc, lorsque j'étais au secondaire, et ça s'est accentué. Je l'ai su quand on nous a donné un exposé. J'étais au secondaire, je n'avais pas pu exposer le jour à cause de mon bégaiement et j'ai reçu beaucoup de moqueries. Avec mes amis, donc, de tout l'or, ça s'accentue, chaque fois. Et quand je suis arrivée à l'université, lors de mes stages aussi, on nous soumet souvent à des exposés. Et je n'arrive pas à parler comme je veux, et cela me dérange beaucoup. Et à chaque fois, il faut qu'on nous soumette des exposés. Et je n'arrive toujours pas à faire.
Du coup, Fatoumata, vous vous présentez à l'oral, vous essayez, vous avez des difficultés ou vous renoncez carrément à ces exposés oraux ?
Je ne renonce pas maintenant. Je ne renonce pas. Lorsque j'étais au secondaire, ça, c'était le prof qui avait proposé que j'arrête. Et que mes amis continuent.
Est-ce que vous avez entendu les conseils que vient de donner Patricia Oxenberg à un autre étudiant d'ailleurs de Conakry, à Louceigny, déjà de dire qu'il bégaye, donc que vous bégayez, est-ce que c'est quelque chose que vous faites ou c'est plutôt quelque chose que vous cachez ?
C'est quelque chose, dire à quelqu'un que je bégaye, je le cache, oui, je le dis pas. La personne constate au fur et à mesure dans notre conversation.
Et vous bégayez particulièrement en situation de stress ?
Oui, exactement.
Patricia Oxenberg, qu'est-ce qu'on peut dire à Fatoumata ? C'est vrai que quand on est étudiant, on est amené souvent à prendre la parole en public, dans des circonstances qui, pour tout le monde, sont très impressionnantes. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller ?
Alors, d'abord, est-ce que quand vous faites des exposés, vous faites avec une présentation qui est projetée individuelle ou vous êtes toute seule à faire votre exposé ?
Je le projette. Je le projette.
Voilà. Donc ça, c'est très bien déjà, parce que du coup, les personnes qui vous écoutent ne sont pas fixées sur vous, vont regarder l'écran, je suppose, que ou bien, enfin, ce que vous projetez. Donc, je pense que déjà, vous aimez bien. Donc, il faut évidemment prévoir des choses projetées qui sont assez jolies, attrayantes, vous voyez, pour que les personnes ne vous fixent pas. Comme ça, ça va vous un petit peu vous désangoisser. Et puis, vraiment, il faut le préparer. Est-ce que vous le préparez chez vous, l'exposé?
Ou Oui, je le prépare pour moi. Alors, je m'entraîne avant d'y aller.
C'est ça. Il faut vous entraîner en vous enregistrant, en fait, et après réécouter, parce que vous saurez quels sont les moments qui vous font bégayer. Et en fait, les situations d'exposé, c'est angoissant pour tout le monde, parce que c'est comme quand on fait une conférence, donc ça fait peur parce qu'on va parler en public. Mais pour le bégaiement, ce sont des situations qui se travaillent bien. En fait, ce qu'il faut, c'est ralentir votre parole et il faut vous entraîner chez vous à faire ça. Parce que quand on bégaye, on a tendance plutôt à aller vite pour en finir. Mais finalement, c'est ça, on va pas plus vite parce qu'on se met à bégayer et puis du coup, ça fait perdre du temps. Donc, il faut vous entraîner à faire l'exposé dans le temps imparti. Par exemple, si on vous donne 10 minutes, ben, il faut que ça dure 10 minutes. Mais vous allez essayer de parler plus lentement, vous enregistrer et quand vous tomberez sur une parole que vous aimez bien, il faut bien la réécouter et vous allez voir que le jour, en fait, de la présentation, vous allez parler comme ça. Vous allez être habitué à parler comme ça.
Un entraînement, donc, avant les exposés. On vous remercie infiniment, Fatoumata. Bonne continuation dans vos études en Guinée. On va rejoindre dans quelques instants l'un de vos confrères au Mali, mais d'abord direction l'Afrique de l'Est pour prendre un autre auditeur en ligne, Silver, qui est à Bujumbura au Burundi. Bonjour Silver.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Alors, on est à votre écoute, allez-y.
Oui, c'est pour dire que la meilleure façon d'éviter le bégaiement, c'est de ne pas le cacher.
C'est ce que vous faites vous-même, Silver. Vous dites que vous avez un problème de bégaiement, que vous êtes concerné, et du coup, ça vous facilite la vie et la parole?
Oui, pour parler à l'aise, j'ai des astuces, notamment, j'inspire avant de parler, ou bien je commence par un chant, ou bien je lance une blague et avant que je me commence à l'exposer.
Ça, c'est bien.
Alors, vous avez justement vous-même trouvé des solutions. Comment vous êtes allé les chercher, ces solutions, Silver?
D'abord, j'ai écouté RFI il y a plus de 20 ans. Alors, vous savez qu'au moins, dans l'an, vous faites des émissions sur le bégaiement. Alors, il y a des astuces qui vous donnent des conseils. J'essaie de les mettre en pratique.
Et vous appliquez. Justement, est-ce que vous avez des questions concrètes, Silver, à poser à l'orthophoniste qui est en ligne avec nous, Patricia Oxenberg, sur la façon justement d'éviter de bégayer quand on parle à quelqu'un? Vous avez des questions?
Oui, oui, j'ai deux questions.
Allez-y.
D'abord, c'est de savoir si la fatigue et la faim contribuent aux rechutes, parce que ça m'arrive souvent quand j'ai fait une activité sportive intense. Et puis aussi, je pose la question de savoir pourquoi on bégaye dans telle langue et non dans l'autre. Parce que en français, je suis très à l'aise, mais dans ma langue maternelle, j'ai des soucis.
Votre langue maternelle, c'est quoi? Le Kirundi, le Swahili, c'est quoi?
Oui,
le Kirundi.
Je suis burundais, oui.
Vous êtes burundais, donc vous bégayez, on va dire, dans la langue la plus parlée au Burundi. Par contre, en français, comme on l'entend, c'est absolument limpide, c'est ça?
Oui, oui.
Deux questions très intéressantes, hein, Patricia Oxenberg. D'abord, l'impact de la fatigue sur le bégaiement.
Alors, d'abord, bonjour, j'aimerais vous rassurer. Le fait d'être fatigué va majorer le bégaiement, c'est sûr, mais ça ne va pas vous faire rechuter. En fait, c'est juste que quand vous êtes fatigué, vous avez du mal à maîtriser tout ce que vous avez mis en place parce que vous êtes fatigué, tout simplement. Donc, ce que je vous conseillerais, c'est surtout de ne pas abandonner le sport et tout ça, parce que c'est très bien d'avoir une détente comme ça aussi au niveau physique. Mais c'est peut-être d'abord d'accepter qu'il y a un peu de bégaiement après le sport et pendant quand vous êtes fatigué, parce que peut-être aussi que vous avez un relâchement total qui fait que vous contrôlez moins, mais ce relâchement, il est peut-être nécessaire à certains moments. Mais si vraiment ça vous gêne, vous pouvez ralentir juste le début des premières phrases et puis après vous n'y pensez plus et en général ça va rétablir un rythme. Ensuite, pour la langue, En fait, c'est très fréquent que des personnes bégayent beaucoup plus dans leur langue maternelle, sans doute parce que quand vous avez appris cette langue, ça s'est mis dans une zone du cerveau, et après, quand vous avez appris le français, dans une autre zone, et donc du coup, qui est plus facile pour maîtriser l'affluence. Et dans la langue maternelle, c'est moins facile parce que déjà c'est une zone certainement qui a pris l'habitude de vous faire bégayer, mais qui en plus, avec tous les souvenirs de bégaiement que vous avez depuis la petite enfance. Donc c'est très fréquent et il faut juste, pareil, ralentir le début parce que vous faites tout bien en fait. Vous dites aux gens que vous bégayez, vous mettez de l'humour, enfin... Vous faites vraiment tout bien. Donc, il faut, c'est un peu technique, c'est juste de ralentir le début, mais en fait, ça ne t'entend pas. Et après, vous allez voir que vous allez retrouver votre rythme et ça va être bon.
Merci beaucoup, hein, Sylvère. Merci pour votre témoignage et pour ces questions. Patricia Oxenberg, tout de suite, on va partir pour le Mali.
RFI à Bamako, 98.5 FM.
Et on vous retrouve tout de suite à Guibou Madanital, bonjour.
Bonjour
monsieur, vous êtes orthophoniste, membre de l'association Vaincre le bégaiement à Bamako. Une première question, qui vient vous voir en consultation, des adultes ou des enfants accompagnés par leurs parents?
Les deux à la fois, les adultes et les enfants, mais la plupart du temps c'est... les enfants accompagnés de leurs parents.
Et est-ce que votre profession orthophoniste, c'est quelque chose, un métier qui est connu par la population malienne ou encore beaucoup de personnes en ignorent l'existence?
On a du chemin à faire. Il y a beaucoup de personnes qui ignorent l'existence d'un orthophoniste, y compris même dans le domaine de la santé. Les médecins même ne savent pas ce que c'est qu'un orthophoniste d'abord, la plupart des médecins. Et du coup, il va falloir un boulot de sensibilisation, d'information sur notre métier et sur comment y accéder à ce professionnel paramédical.
Et vous, justement, comment est-ce que vous y avez été amené? Et puis cette question, fameuse question qu'on pose souvent quand on a des spécialistes dans la sous-région, c'est vous êtes combien au Mali, vous, les orthophonistes?
En fait, on est 3 orthophonistes diplômés dans tout le Mali.
Oui, bon, alors on voit qu'il y a du boulot. On a compris, hein, vous disiez tout à l'heure, beaucoup de chemin à faire. Et vous, comment est-ce que vous êtes devenu orthophoniste?
En fait, j'étais à Handicap International. J'avais fait des études de droit. J'ai ma maîtrise en droit public international. Mmh. Et du coup, après, j'ai eu des stages aux affaires étrangères. Après, j'ai été embauché par Handicap International où j'ai fait 1 an. C'est de là-bas que j'ai eu cette opportunité d'aller poursuivre mes études. Donc, j'ai démissionné du handicap pour pouvoir postuler à cette bourse. Et effectivement, ça a été une aubaine pour moi.
Alors, l'orthophonie, est-ce que vous travaillez spécifiquement sur le bégaiement ou est-ce que vous travaillez sur d'autres troubles de la communication?
Je suis polyvalent, je travaille sur d'autres, sur plusieurs troubles de la communication. Mais le bégaiement aussi, c'est un domaine de prédilection.
Pourquoi?
Parce que dès mon arrivée en 2013, il y a ce fléau qui ravageait de plus en plus l'association Vaincre le bégaiement, qui était en carence d'orthophonistes. Et moi, j'étais animé par une hargne indescriptible de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Donc, il fallait créer des moyens, c'est-à-dire me faire connaître, sensibiliser, aller vers les médias, donc faire des émissions télé pour me faire connaître et m'implanter d'abord et voilà, faire connaître ma profession. Et du coup, à travers cela, l'association Vaincre le bégaiement m'a approché et on a commencé à travailler et vraiment ça a été une aubaine pour moi. De plus en plus, on commence à être connu, de plus en plus le besoin s'est fait sentir et voilà, ça devient très intéressant.
Et cette énergie, par quoi elle a été motivée? Parce que vous aviez des gens dans votre entourage qui étaient concernés ou parce que vous ressentiez justement une très grande détresse du côté de ces personnes concernées par le bégaiement?
Je suis moi-même une personne en situation d'handicap. Mmh. C'est pour vous dire que je suis le mieux placé à connaître ce que vivent les personnes en situation d'handicap, langagé et communicatif, c'est-à-dire les personnes bègues. Mmh. Okay, moi, je suis une personne en situation d'handicap physique, mais... cet handicap-là a été un atout, une force pour moi, de montrer aux autres que l'handicap n'est pas un frein, n'est pas une barrière à notre épanouissement. Et que cet handicap-là doit être un atout, une force qu'on doit mettre en exergue faire être visible partout pour pouvoir dire on a notre place dans cette société-là.
Aguibou Manadital, on a bien compris, trois orthophonistes pour tout le Mali. Ça veut dire que le message, hein, il ne pourra pas simplement être fait passer par les professionnels de santé, mais bien par chacun, chacune, les parents, les enseignants. Il faut vraiment travailler auprès de tout le monde.
Oui, c'est normal, il faut travailler auprès de tout le monde, tout le monde. Du coup, depuis quand je suis venu, j'ai approché les écoles, les crèches, j'ai déposé mes coordonnées. Après, j'ai fait des émissions, j'ai approché les radios, à la fin, c'est les radios, même les télés, les médias qui venaient vers moi. Ok, donc du coup, j'ai décidé de travailler en libéral pour être plus encore libre dans mes activités et pouvoir venir en aide à tous ceux qui sont dans ces troubles de langage et de la communication. Effectivement, plus précisément les personnes bègues.
En ce qui concerne ces
personnes bègues-là, comme l'avait dit Fatoumata, Fatoumata, elle n'a pas conscience de son trouble, elle n'a pas confiance en elle. Le plus simple possible de faire bouter cet handicap-là en elle, c'est d'accepter son handicap. Mm-hmm. Parce que être en situation de handicap et être handicapé, ça fait deux. Mm-hmm. Je suis en situation de handicap, ça veut dire quoi? Je suis limité par rapport à un domaine bien déterminé. Mais je suis une personne handicapée, ça veut dire que je suis totalement dépendante mm-hmm. des autres. Mm-hmm. D'accord? Moi, je fais de cet handicap-là un atout. Ça veut dire quoi? Je fais dire aux personnes handicapées, regardez-moi situation moi. Est-ce que ça m'a empêché d'être ce que je suis aujourd'hui? Mm-hmm. Acceptez votre handicap.
Et c'est un message d'abord à faire passer aux parents. C'est un message d'abord à faire passer aux enfants quand les enfants sont tout petits.
Oui, les surtout quand il dit aux parents que leurs enfants ont cette difficulté-là, c'est très difficile pour les parents d'accepter la situation de leurs enfants. Ça, c'est un déni pour la première fois. Mm-hmm. Mais au fur et à mesure, ils vont accepter. Au fur et à mesure, il faut les approcher, expliquer de fond en comble d'abord ce dont souffre leur enfant ou la personne. Et au fur et à mesure, ils vont accepter.
On a entendu un mot qui est revenu à plusieurs reprises au cours de cette émission, Aguibou Manadital, c'est le mot de moquerie. Comment faire reculer la moquerie? Comment faire comprendre une fois pour toutes à celles et ceux qui nous écoutent que, eh bien, rire quand quelqu'un répète trois fois le même mot, sauf si c'est dans un film comique à la limite, eh bien, en fait, ça n'a strictement rien de drôle.
Ce qui tue la personne bête, c'est le regard des autres. Mm-hmm. Le regard des autres tue. Mm. Alors, pour éviter ce regard des autres-là, il faut avoir confiance en soi. Mm-hmm. La confiance est très importante. Mettre son handicap en exergue. Dire que, voilà, que les autres se moquent de moi ou pas, je m'en fiche pas mal. Mm-hmm. Tout le monde a des défauts. Tout le monde a des défauts. Et j'ai un petit défaut langagier et communicatif. Et ce défaut ne doit pas m'empêcher d'être ce que je suis, de véhiculer mon message. Le plus important, c'est de véhiculer le message et que ce message soit compris par tout le monde. Ok, il y a certains qui disent que voilà, pour ne pas bégayer, il faut parler lentement, il faut faire ça, il faut faire. Et il y a Patricia qui dit aussi qu'il faut que la personne s'enregistre, mais la plupart du temps, les personnes ne veulent pas s'auto-écouter. La plupart du temps, les personnes ne peuvent même pas dire un mot ou à force une syllabe. Mm-hmm. D'accord? Alors, il faut d'abord travailler ce côté psychologique-là, mm-hmm. dire que voilà, le corps ne doit pas intervenir dans la communication et que tout est langage et tout est au niveau de la bouche. Et que pour pouvoir parler, il faut d'abord prendre le souffle. Le souffle est très important. La plupart des personnes bègues, ils respirent par la poitrine et non par le ventre. Ça veut dire quoi? Le souffle qui doit rentrer par les narines, aller jusqu'au ventre, il ne se fait pas. Il se limite seulement au niveau de la poitrine. Au niveau de la poitrine, et au fur et à mesure que la personne veut parler, le souffle est immédiatement fini. Et là, il force, il fait intervenir le corps, et c'est d'où on voit les synkinésies corporelles, on voit encore les muscles du cou ou les muscles de la face qui sont tendus. Donc la personne, elle est dans une tension totale, interne, donc un stress total qui l'empêche de véhiculer, de penser même à ce qu'il doit dire. Mais ils pensent à comment je vais dire. Est-ce que les autres vont se moquer de moi? Non, quand je vais parler comme ça, ils vont se moquer de moi. Non, je vais choisir ce mot. Ce mot doit être plus facile. Non, je ne dois pas bégayer devant un tel. Donc, l'interlocuteur qui est en face aussi agit beaucoup sur la personne bègue. Donc, le plus important, c'est de faire fi de tous les regards des autres, quelle que soit la personne qui est en face de soi. Quelle que soit la personne qui est en face de soi, il faut la regarder droit dans les yeux. Le regard, il est très, très important. Il initie la communication, il maintient la communication, il met fin à la communication.
Démonstration magistrale à hein, Guibou Madanital. Je voudrais juste qu'on donne la parole à un auditeur. Je lui laisse une minute à Bertrand parce que les minutes passent. Bertrand de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Bertrand, je vous laisse poser votre question, nous raconter en quelques instants et poser votre question. Allez-y.
Alors, merci beaucoup pour la parole et bonjour à tout le monde.
Bonjour.
Et moi, ma question, j'ai trois questions. Déjà, au niveau des causes du dysfonctionnement du langage, parce que j'ai deux garçons, mm-hmm. l'un de 6 ans et l'autre de 4 ans. Mm-hmm. Et c'est avec celui de 4 ans que je rencontre ce dysfonctionnement-là. Mm-hmm. Ça fait pratiquement une année que c'est arrivé. Pourtant, ses débuts dans le langage étaient très fluides, mais après, j'ai constaté ces espaces-là dans son langage. Donc, j'aimerais savoir déjà quelles sont les causes.
Mais pour ça, je vais vous inviter à réécouter le début de l'émission, comme ça, vous aurez la réponse. Alors Bertrand, okay, on va prendre les autres questions, si vous le voulez bien.
Les autres questions. Oui. Donc, comment moi, je peux faire à la maison pour l'aider donc à fluidifier son langage? Mm-hmm. Et la troisième question, y a-t-il un traitement, bon, comportemental, peut-être, je suppose, hein, quels sont les gestes ou encore mm-hmm. les petites techniques à faire pour l'aider à fluidifier son langage. Voilà comme question.
Alors, on a passé en revue un certain nombre de méthodes avec justement le fait de dire quel était le problème, le fait de s'enregistrer, le fait de faire des exercices en public. Peut-être un petit dernier mot, parce qu'il nous reste vraiment une minute. Patricia Oxenberg, pour rassurer ce papa Bertrand par rapport à son fils, pour améliorer la situation. Tout à l'heure, c'était des conseils, on va dire, plutôt à des adultes, là, à des enfants.
Oui, bonjour. Pour un petit enfant, ça va être très important de lui dire de vous regarder au moment du bégaiement. Quand il est aussi dans un moment où il bégaye fort, où il bloque et qu'il n'arrive pas à sortir ses mots, vous pouvez lui proposer des mots. Si ça l'énerve, il faut arrêter, il faut absolument pas l'énerver. Vous pouvez aussi lui dire oui. En fait, il faut absolument stopper ces influences qu'il n'arrive pas à arrêter. Et en fait, à chaque fois, si vous lui dites oui, comme ça, il va vous regarder et ça va lui permettre de redémarrer en étant naturel. Mais il faut vraiment privilégier un échange naturel. Et donc, pour que votre enfant soit rassuré et qu'il puisse vous parler en vous regardant et diminuer peut-être sa vitesse de parole.
Guibou Madanital, en 30 secondes, travailler sur la confiance avec un enfant, c'est très important?
C'est très, très important. Avec l'enfant, il faut changer la donne. Il faut jouer à la comédie. Il faut parler un langage doux. Il faut être dans son monde. Il faut se comporter comme un enfant pour pouvoir voir cet enfant-là et dire des mots. Et quand il le dit aussi, il faut même pas prêter attention à comment il le dit. Il faut corriger sans qu'il le sache que vous l'avez corrigé, sans lui mettre aucune pression, sans qu'il prenne conscience qu'il a un problème. C'est là le plus important avec les enfants. C'est là aussi que c'est difficile encore de travailler avec les enfants.
Le regard, l'écoute. Merci beaucoup hein, à Guibou Madanital, orthophoniste à Bamako, au Mali. Merci à vous, Patricia Oxenberg, pour tous ces conseils pratiques d'une grande douceur. C'était vraiment très intéressant cet échange. On vous remercie beaucoup. Je rappelle que vous êtes orthophoniste enseignante à Sorbonne Université. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. C'est tout ça, Maquée, Ophélie Lassène, Didier Bleu, Didier Chérouz. Demain, vous retrouverez un reportage signé Charlie Dupio dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Rencontre avec résidents et soignants de cette EHPAD de Colmar dans l'Est, très durement touchée par l'épidémie de Covid-19. À demain. D'ici là, portez-vous bien, lavez-vous bien les mains et portez un masque si possible.
C'était Priorité Santé avec les sociétés Suno Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Suno Assurance. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.